Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. Bonsoir donc à vous qui êtes devant moi physiquement et à ceux dont je sais qu'ils sont dans le planétarium, mais qu'ils nous voient également. Merci d'être venus si nombreux pour écouter Étienne Klein, qui nous a fait le grand honneur de venir participer à notre semaine de voix publique en partenariat avec l'Espace Mendès France, dont je remercie énormément le directeur et les différents organisateurs. Alors, je ne vais pas vous présenter Étienne Klein, tout le monde le connaît, je suppose, sinon vous ne seriez pas là. Étienne Klein, qui est un physicien et qui est un philosophe de la science, qui s'est beaucoup investi dans la philosophie de la science, et qui en plus est un auteur de grand talent, qui a écrit des livres très lisibles pour un physicien, très lisibles pour un philosophe, y compris des livres extrêmement amusants à lire. Je pense par exemple à des livres d'anagramme, mais ça c'est une autre affaire. Donc, Étienne Klein va nous parler, le titre de sa conférence, je crois, parle de lui-même, va nous parler de la nature, des lois de la nature, en conformité, si l'on peut dire, avec le thème de notre festival, qui est la nature. La nature, une nature cultivée. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Voilà, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis toujours ravi de venir à Poitiers. Je crois que c'est la quatrième fois que je viens dans cet espace dont je connais un peu l'histoire et dont je sais qu'il célèbre ses 30 ans d'existence. Et je m'associe à tous ces efforts qui sont faits ici pour diffuser ce qu'on appelle la culture scientifique et technique. Donc comme le thème de ce cycle de conférences c'est la nature, je sais que François Cassin-Génat vous a parlé de la nature dimanche. Ça ne sera pas vraiment mon sujet, moi je vais plutôt m'interroger sur le statut des lois physiques en partant d'un constat que chacun d'entre nous a pu faire en écoutant des astrophysiciens parler par exemple de l'origine de l'univers quand nous parlons du Big Bang ou disons des phases primordiales de l'univers. Quand on est physicien, on le fait toujours en invoquant les lois physiques dont on pense qu'elles étaient à l'œuvre dans ces périodes reculées de l'histoire de l'univers. Ce qui suppose que les lois physiques étaient déjà là. Et même quand on parle de l'origine de l'univers, cette espèce de singularité primordiale à laquelle on associe un instant zéro qui serait en fait l'événement explosif qui aurait fait apparaître tout ce qui existe, la matière, l'espace, le temps, la lumière, l'énergie, on le fait toujours en invoquant les lois physiques. Comme si les lois physiques étaient déjà là. Comme si l'arsenal législatif de l'univers avait précédé l'univers. Et quand on dit cela, sans que ce soit toujours assumé, on suppose que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers. C'est-à-dire qu'elles sont là avant l'univers. On pourrait même dire qu'elles existent sans nécessiter l'univers. Et ça m'a toujours paru bizarre qu'on puisse parler de l'origine de l'univers sans préciser le statut qu'elles ont par rapport à l'univers lui-même. Il y a d'ailleurs un exemple qui m'avait fait un peu sourire, un des derniers livres de Stephen Hawking. Bon, Stephen Hawking, comme vous le savez, n'écrivait pas ses livres, hein, c'est des gens qui les écrivaient à sa place. Mais à chaque fois, dans la dernière page, il parlait de Dieu. Par exemple, dans Une brève histoire du temps, il disait, en conclusion de sa présentation de la théorie des cordes, « Bientôt, grâce aux travaux des physiciens théoriciens, nous connaîtrons la pensée de Dieu. » Ce qui était la phrase finale. Une phrase incroyable, parce que ça suppose que Dieu pense. Est-ce qu'il est vrai que Dieu pense ? Enfin, je pense que c'est un sujet de discussion. Est-ce qu'il pense au sens que nous donnons à ce terme, nous les humains ? Et puis, dans un autre livre plus récent, qui s'appelle « Le grand dessin de l'univers », il disait tout à fait autre chose, à la dernière page toujours. Il disait, mais finalement, l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé. Les lois physiques, en l'occurrence celles de la gravitation, ont suffi. Ce qui était une phrase très étonnante, parce que dans tout le reste du livre, dans les pages qui avaient précédé, il développait une présentation de ce qu'on appelle la théorie M. La théorie M, c'est la théorie qui englobe toutes les théories différentes des supercordes. Et c'est justement une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas postulée. Et on part de principes comme ceux de la relativité ou ceux de la physique quantique. Et à partir de ces principes, comme conséquence de ces principes, on est capable de faire apparaître les équations d'Einstein de la gravitation. Donc la gravitation n'est pas première, elle est consécutive des principes que pose la théorie. Donc dire que les lois de la gravitation sont la cause de l'univers, c'est contradictoire avec le fait qu'elles sont elles-mêmes dérivées de principes plus fondamentaux qu'elles-mêmes. D'autre part, dans le reste du livre, il définissait Dieu comme étant le créateur de l'univers. Donc, si j'associe les deux idées ensemble, Dieu, c'est le créateur de l'univers, et on n'a plus besoin de Dieu pour créer l'univers puisque la gravitation a suffi, j'en déduis que Dieu, c'est les lois de la gravitation. Ce qui veut dire que, si c'est le cas, quand vous trébuchez dans les escaliers et vous cassez la figure sous l'effet de la gravitation, sans vous en rendre compte, vous avez rendu une action de grâce. Et donc, voilà, le sujet de ce soir, c'est d'essayer d'interroger cette forme de désinvolture langagière qui est la nôtre, qu'on soit scientifique ou qu'on ne le soit pas, lorsqu'on questionne l'origine de l'univers ou quand on prétend la décrire. Il y a quelque chose de mal dit, de mal formulé, d'imprécis, de sorte que le langage un peu pauvre qu'on utilise pour dire cela diffracte contre un problème qui est peut-être plus qu'un problème, qui est peut-être simplement un mystère qu'aucune démarche intellectuelle ne permettra de dissoudre. Alors avant d'aborder cette question proprement dite, je voudrais dire deux, trois choses sur les lois physiques telles qu'elles sont depuis la révolution galiléenne. Je ne parlerai pas du tout de la période d'avant parce que la physique dite moderne, elle commence avec Galilée, et on peut donc dire que Galilée a, comme le dit Nietzsche, a coupé l'histoire en deux, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et l'après ne ressemble plus à l'avant. Galilée a l'idée que les lois physiques s'expriment en langage mathématique, lui pensait à la géométrie, bon, ce qui a plutôt marché avec Newton, c'est les équations différentielles, mais l'idée était là, les lois de la nature, les lois physiques, s'expriment sous forme d'équations, de nature différente. Et c'est cette idée que Galilée lui-même n'a pas vraiment explorée. C'est plutôt Newton qui va le mieux la formuler dans une première étape. Mais c'est Galilée qui a compris que se jouait là quelque chose de fondamental qui allait modifier complètement la façon de comprendre les phénomènes physiques. Gaston Bachelard, ce philosophe des sciences que vous connaissez, qui avait une barbe qu'on pourrait qualifier de fluviale. Il avait une tronche à tous les sens du terme, mais il avait vraiment une tête particulière. Bachelard a largement commenté la naissance de la physique moderne et aussi celle de la relativité et de la mécanique quantique. Il a écrit un livre en 1934 qui s'intitule « La formation de l'esprit scientifique ». Et dans ce livre, assez révolutionnaire pour l'époque, il dit ceci. « La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Désormais, le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique. Autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Désormais, il faut penser contre son cerveau. » C'est une phrase bizarre, hein ? Paradoxale, puisqu'on pense toujours avec son cerveau. Mais ce que veut dire Bachelard, c'est que notre cerveau n'a peut-être pas été fait pour penser. C'est-à-dire que la fonction du cerveau, c'est sans doute pas de découvrir la vérité. La fonction du cerveau, c'est de nous rendre adaptés à notre environnement et à ses variations. Et faire de la science, dit Bachelard, faire de la physique en l'occurrence, c'est obliger notre cerveau à remettre en cause ce qu'il pense spontanément. En fait, faire de la science, c'est trouver des stratagèmes par lesquels on va accepter de penser autre chose que ce qu'on pense pour voir ce que ça donne. Il s'agit de provoquer les idées spontanées que le cerveau est capable d'émettre au motif qu'elles sont cohérentes, évidentes, ou semblent décrire de façon juste les phénomènes tels que nous les observons. Et prenez un exemple pour voir ce que je veux dire là. Prenez l'exemple de ce qui se passe quand vous buvez un verre de jus d'orange avec une paille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un truc assez bizarre. Vous avez une paille qui trempe dans le jus d'orange. Le liquide que vous allez boire est beaucoup plus bas que la bouche dans laquelle le liquide va arriver. Vous aspirez et le liquide va monter dans la paille. C'est quand même extraordinaire, non? Le liquide a un comportement qui défie la gravité. Le liquide monte dans la paille. Comment expliquer ce phénomène? Pendant des siècles, voire des millénaires, depuis qu'Aristote a dit que la nature avait horreur du vide, on a pensé que c'était la manifestation de l'horreur que la nature éprouve pour le vide. Comment cela? Vous aspirez de l'air, donc vous diminuez la pression dans la paille. Un vide menace d'apparaître. Alors qu'est-ce qui se passe? La nature, qui a horreur du vide, demande au liquide de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher la formation du vide. Le liquide qui est obéissant grimpe et empêche la formation du vide. Autrement dit, l'explication, c'est que l'horreur que la nature éprouve pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'une dépression se manifeste, elle agit pour qu'une matière vienne combler les zones de l'espace dans lesquelles le vide menace d'apparaître. Et on pense tous un peu ça. Et on pense qu'en effet, on aspire le vide. Enfin, pas le vide, on aspire le jus d'orange. J'ai fait un petit sondage auprès de jeunes collégiens. Ils sont persuadés que le liquide s'accroche à l'air qu'on aspire. L'air qu'on aspire monte et par je ne sais quel lien, le liquide s'est accroché à cet air et c'est ça qui le fait monter dans la paille. Cette explication est évidemment complètement fausse, mais pour le démontrer, il a fallu que des cerveaux assez puissants s'en occupent. En l'occurrence, ceux de Galilée, Torricelli, Blaise Pascal, au début du XVIIe siècle. Et la découverte a été accidentelle. Ça s'est passé à Florence, ville de la Renaissance, dans laquelle on voulait créer des fontaines qui soient les plus spectaculaires possibles, justement pour montrer que la ville était celle de la Renaissance, et il fallait le montrer de la façon la plus ostentatoire possible. Et donc les gens, les fontainiers comme on les appelait, pompaient l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno, et ils utilisaient des pompes pneumatiques utilisées par ailleurs les paysans pour vider les fossés des champs inondés. Et à certains endroits, ils devaient pomper sur une hauteur de plus de 10 mètres. 18 coudées exactement. Ils voyaient que ça ne marchait plus. Ils ne pouvaient pas pomper au-delà de 10 mètres. Et donc, ils ont pensé à un problème technique. On convoquait des ingénieurs, des artisans pour réparer ces pompes. Ça ne marchait pas. Et en désespoir de cause, ils ont écrit à Galilée. C'était en 1641. Il était déjà très vieux, aveugle quasiment. Et il a eu le temps de regarder le problème et de dire « Cette expérience que vous faites, cet incident, n'est pas un problème technique, c'est un problème physique. » Qui démontre que, contrairement à ce qu'on raconte, la nature n'a pas horreur du vide. Parce que si elle avait horreur du vide, il n'y a aucune raison que cette horreur s'arrête au-delà de 10 mètres. Cette horreur est absolue, elle n'est pas contextuelle, elle n'est pas liée à certaines conditions particulières. Et donc si l'eau n'arrive pas à grimper au-delà de 10 mètres, c'est que cette horreur du vide est une fiction. Et si nous disons que la nature a horreur du vide, c'est simplement parce que nous avons du mal à voir le vide. Pourquoi? Parce que l'air est pesant, il y a une pesanteur de l'air, ce qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique. Et dès qu'un vide menace d'apparaître, le moindre orifice dans l'enceinte permet à l'air sous pression de passer et de combler le vide. Et l'idée qu'a Galilée, c'est qu'en fait, c'est la pression atmosphérique qui fait monter le jus d'orange dans la paille. quand vous aspirez de l'air, vous diminuez la pression dans la paille. Donc la pression sur le liquide qui est dans la paille devient plus faible que la pression qui s'exerce sur le liquide qui est dans le verre. Et cette différence de pression fait que une pression qui va du haut vers le bas fait monter le liquide du bas vers le haut. Une sorte de reversement complet de l'explication. De sorte que si on admet ce résultat, on oblige notre cerveau à penser contre lui-même. C'est-à-dire à refuser l'explication spontanée qui pouvait lui venir à l'esprit pour adopter une autre explication qui ne vient pas spontanément et qu'on ne peut découvrir que grâce à des stratagèmes intellectuels par lesquels on parvient à faire en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. L'idée finalement centrale de Galilée, c'est que la physique ne peut pas être une bureaucratie des apparences. Ça n'est pas en regardant les phénomènes en spectateur ou en lisant des livres déjà écrits, comme ceux d'Aristote, qu'on comprendra les lois des phénomènes. Pour les découvrir, il faut aller les chercher. Pour les trouver, il faut d'abord théoriser. Et il faut théoriser non pas en déduisant des lois de l'observation des phénomènes, mais en faisant des expériences de pensée qui sont des expériences avec de la pensée. Et non pas des expériences qu'on fait au laboratoire. Par exemple, il y a quelque chose d'assez incroyable. Galilée était un génie, on est d'accord là-dessus, mais ce qu'il a fait est quand même très étonnant. Galilée a compris en 1604 que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide à une époque où non seulement on ne savait pas faire le vide, mais on discutait farouchement entre doctes de son existence. La plupart, comme vous le savez, ne croyaient pas à l'existence du vide. Quelques-uns seulement, comme Galilée, Torricelli, son étudiant, Blaise Pascal en France, croyaient au vide. Mais ce n'était pas simple. Galilée avait lu Aristote comme tout le monde. Aristote avait tranché la question de la chute des corps en disant « Plus un corps est massif, plus il tombe vite. » Et dans un livre qui s'appelle « Discours, c'est les deux systèmes du monde », Galilée qui intervient avec des personnages qui discutent, il y en a trois. Le porte-parole de Galilée, c'est Salviati. Et Salviati fit remarquer que sans doute... Aristote, quand il raconte ça, n'a pas fait d'observation. Parce qu'on n'a jamais vu qu'une pierre 10 fois plus lourde qu'une autre pierre tombe 10 fois plus vite. Donc il y a une petite suspicion. Et en plus, Galilée fait des expériences. Par exemple, il fait tomber des pierres dans de la mélasse. Il voit que les pierres sont freinées et que si on les fait tomber dans l'eau, elles sont un peu moins freinées. Et si on les fait tomber dans l'air, elles sont encore moins freinées. Et il fait une extrapolation en disant, mais si le milieu dans lequel on fait tomber les pierres était de densité nulle, c'est-à-dire s'il était vide, quelle serait la vitesse de chute des corps? Donc il extrapole et il pense que, puisque les différences de vitesse entre des corps de masse différentes deviennent de plus en plus faibles à mesure que la densité décroît, si la densité devenait nulle, les différences s'annuleraient et tous les corps tomberaient à la même vitesse. Mais il ne fait pas d'expérience puisqu'on ne sait pas faire le vide. Et donc, il va trouver la solution qui va convaincre en tout cas une partie des savants de l'époque. Et cette expérience ne consiste, cet argument plutôt, ne consiste pas à faire une expérience physique, mais à faire une expérience avec de la pensée. C'est-à-dire à montrer que si Aristote avait raison, il serait nécessaire qu'il ait tort. Et pour ça, il faut donc le prendre au sérieux, je parle d'Aristote, et montrer que s'il a raison, alors dans certaines situations qu'on peut inventer mais pas réaliser, la prédiction de ce qu'il croit vrai aboutirait à des conclusions absurdes. L'expérience qu'invente Galilée, c'est de dire, donc je suppose qu'Aristote a raison, je prends une grosse pierre, une petite pierre, D'après Aristote, la grosse va tomber plus vite que la petite. L'expérience de pensée consiste à dire que se passerait-il si j'accrochais ou si je reliais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Je fabrique un système de pierre qui est plus lourd que la grosse pierre. Je le laisse tomber. Que dit Aristote? Ben, que c'est plus lourd que la grosse pierre. Donc ça va tomber plus vite. Mais en même temps, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde. Elle va faire parachute et freiner la chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Conclusion, la même loi, celle d'Aristote, dit que ça va tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre. Il y a une contradiction. Comment résoudre la contradiction? En disant que les deux pierres tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc vous voyez que la première loi de la physique, 1604, est une loi qui contredit l'observation et qui ensuite oblige à réinterpréter l'observation pour comprendre comment une loi qui contredit l'observation l'explique quand même. On va dire que tous les corps tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravité, mais quand on fait l'expérience dans l'air et non pas dans le vide, d'autres forces interviennent, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables de la différence de vitesse que nous observons. C'est là que ça commence. D'accord ? C'est là que ça commence. C'est l'idée que les lois de la physique sont hors du spectacle des phénomènes physiques. Et c'est pas en regardant les choses qu'on les comprend. C'est un sujet de bac il y a 2 ans, hein, en philo. Observer suffit-il pour comprendre ? La réponse est non. D'accord ? Pas besoin d'argumenter. Si vous mettez non, c'est 20 sur 20. Je crois pas que ça joue comme ça, en effet. Mais voilà, c'est non. Et d'ailleurs, on a parlé d'anagramme tout à l'heure, l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. D'accord ? Donc la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps. Un autre philosophe des sciences qu'on pourrait citer, qui est Alexandre Coiré, commentant les travaux de Galilée, dit ceci, le pari de la physique avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel, par l'impossible. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que on arrive à comprendre le réel empirique, c'est-à-dire les phénomènes tels qu'ils se montrent à nous, par des lois physiques dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, nous semble impossible, faux, absurde, antinaturel. Autrement dit, si on appelle loi de la nature les lois physiques, alors les lois de la nature nous semblent contre nature. Et si vous réfléchissez à toutes les lois physiques que vous connaissez, que vous avez apprises à tel ou tel stade de vos études, vous verrez que toutes, si vous vous arrêtez à ce qu'elles impliquent vraiment, en fait sont absurdes, semblent fausses, semblent contradictoires avec l'expérience que nous avons du monde. L'exemple que prend d'ailleurs en premier Alexandre Coiré dans son livre, qui s'appelle « Études galiléennes », c'est le fameux principe d'inertie. Principe d'inertie qui est un des 3 principes fondateurs de la mécanique de Newton, avec le principe de relativité et le principe d'égalité de l'action et de la réaction. Que dit le principe d'inertie? Qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. C'est-à-dire va en ligne droite indéfiniment à vitesse constante. On apprend ça en classe de seconde, je crois. Enfin, à mon époque, c'était seconde. Aujourd'hui, ça doit être en licence. Je plaisante. En tout cas, c'est pas en seconde. C'est plus en seconde. Mais en fait, moi, quand on me l'a appris, on m'a dit, moi, j'avais quand même dit à la professeure, je m'en souviens, j'avais dit, c'est quand même bizarre cette loi. On n'a jamais vu ça, quoi. On n'a jamais vu un mouvement inertiel. Tous les mouvements qu'on voit s'amortissent, ou bien sur curviligne, et sont dus à l'action d'une force. C'est ça que nous montre l'expérience. Pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par quelque chose. Et là, vous nous dites que s'il n'y a aucune force, le corps est mu indéfiniment. C'est absurde. En fait, cette loi, principe d'inertie, a été acquise au XVIIe siècle. Ce n'est pas Galilée lui-même qui l'a formulée, c'est un de ses étudiants qui s'appelle Baliani. Mais c'est une loi antinaturelle qui nous invite à comprendre l'amortissement observé des corps que nous voyons se mouvoir en invoquant l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas. C'est un mouvement idéal que personne n'a jamais vu. Quand vous voyez un corps qui a une vitesse constante en ligne droite, c'est simplement parce que s'exercent sur lui des forces dont la résultante est nulle. Mais il subit des forces. Et donc, expliquer le réel par l'impossible, c'est ça. C'est expliquer ce qu'on observe par des lois qui nous semblent impossibles. C'est donc la contraposée du slogan de mai 68, qui était « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Le slogan des physiciens, c'est « Soyons impossibles, demandons la réalité ». Alors, vous voyez, cette histoire du principe d'inertie, dont le professeur m'avait répondu, quand j'avais fait l'objection que j'ai citée tout à l'heure, m'avait répondu « Klein, vous manquez de sens physique ». C'est après que j'ai découvert qu'il avait fallu attendre plusieurs siècles après Aristote pour comprendre cette loi, pour la formuler. Parce qu'elle est contre-intuitive. Elle est contradictoire avec l'expérience que nous avons de la dynamique des corps. Et d'ailleurs, cette loi, principe d'inertie, est-ce qu'elle a déjà été vérifiée directement? Non. Non. D'ailleurs, il y a un jeune garçon à la fin du XIXe siècle, je vous laisserai deviner son nom, qui s'est dit, mais finalement, cette loi d'inertie, là, ce principe d'inertie, dès lors que nous savons qu'il y a de la gravitation partout dans l'univers, il y a des masses partout, il y a des étoiles partout, l'univers est sans doute homogène, donc ça veut dire qu'il n'existe aucun endroit dans l'univers où le champ gravitationnel soit nul. Donc, où qu'il soit, dans l'espace, un corps massif subit la force de gravitation. Donc, il n'existe aucun endroit dans l'univers dans lequel on puisse dire que le principe d'inertie soit actualisé, c'est-à-dire se déploie purement et simplement par des corps qui seraient soumis à aucune force et qui auraient donc ce fameux mouvement rectiligne et uniforme. Et ce jeune homme se dit, de deux choses l'une. Soit on accepte ce principe comme étant un principe métaphysique, c'est-à-dire un principe qu'on ne peut tester nulle part parce qu'il n'est actuel nulle part. Et à ce moment-là, on construit la physique sur du sable. Soit, on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si on démontre que la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui subit la gravitation pourra avoir un mouvement inertiel, puisque la gravitation ne sera pas une force. Comment s'appelle ce jeune homme? C'est un gars doué, hein, il s'appelle Albert Einstein. Et en effet, en 1915, il va publier une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale, qui démontre que la gravitation n'est pas une force. C'est-à-dire qu'un corps qui subit la gravitation, en fait, a un mouvement inertiel, subit zéro force, parce que la gravitation, au lieu d'être une action qui s'exerce d'un corps vers l'autre dans l'espace, en fait, est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, quand nous disons la Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la gravitation, parce qu'une force, celle de Newton, attire la Terre vers le Soleil, et c'est pour ça que la trajectoire de la Terre est une ellipse, Einstein dit non, la trajectoire de la Terre est une trajectoire inertielle, donc la Terre va en ligne droite. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Donc les Claude Alec de l'époque ont dit à Einstein, mais comment ça? Vous dites qu'elle va en ligne droite alors qu'on voit bien qu'elle tourne, c'est n'importe quoi. Et Einstein répond, mais oui, mais si la Terre va en ligne droite, dans les mouvements que nous observons, c'est tout simplement parce que dans un espace courbé, les lignes droites tournent. Voilà. C'est ça l'idée de la relativité générale. D'accord? Et donc, vous voyez qu'il a, il a, il a trouvé une solution qui permet de sauver le principe d'inertie, alors même qu'il n'était observable en tant que tel nulle part. Et donc, là encore, on a des lois, si vous voulez, qui sont très bizarres et qui contredisent notre lecture spontanée des phénomènes. Alors, comment est-ce qu'Einstein a été amené à cette théorie? C'est évidemment une longue histoire que je ne vais pas raconter. Mais il y a deux, trois étapes différentes. Einstein faisait lui aussi des expériences de pensée, comme Galilée. Mais son originalité, c'était qu'il faisait des expériences de pensée dans lesquelles il mettait en scène son propre corps. Il a d'ailleurs dit à la fin de sa vie, « Ma pensée est musculaire. » Musculaire. Je pense sans mots, avec des images, qui sont le résultat d'impressions que je ressens en m'imaginant avec mon corps, dans telle ou telle situation physique que je peux penser sans pouvoir la réaliser. Vous vous rappelez sans doute d'une expérience de pensée qu'il a faite à 16 ans, quand il était en Suisse, à Rao, il était au lycée de cette ville, et il s'est imaginé à cheval, comme il le dit, sur un rayon lumineux. Donc il met son corps en situation, il imagine son corps sur un rayon lumineux. À l'époque, on pense que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques qui se propagent en faisant vibrer un truc qu'on appelle l'éther qui se trouve partout présent dans l'espace. Et Einstein, qui a 15 ans, donc 16 ans, connaît bien les équations de Maxwell en autodidacte. Et il sait que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, il est donc à cheval sur une onde électromagnétique. Donc par rapport à lui, l'onde électromagnétique va être stationnaire. Elle ne bouge plus. Il est dans la position d'un surfeur qui glisse sur la surface de l'eau en étant sur la crête d'une vague et il avance avec les vagues. Donc la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui et la vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui. Donc quand vous faites du surf, les vagues autour de vous forment un système stationnaire. Donc Einstein se dit, si je suis à cheval sur une onde électromagnétique, je verrai une onde stationnaire. Or, il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. Donc Einstein se dit, soit les équations de Maxwell sont fausses, soit la solution, soit l'expérience que j'ai imaginée, la situation que j'ai inventée, est une situation impossible. Il va réfléchir là-dessus pendant des années. Et en 1905, il pond la théorie de la relativité restreinte qui répond à la question en disant « L'expérience que tu as imaginée est une expérience impossible. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Pour n'importe quel observateur. Donc tu ne peux pas être à cheval sur un rayon lumineux parce que quelle que soit ta vitesse dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à toi sera la vitesse de la lumière. » Donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle, et elle ne peut pas être immobile par rapport à nous. En 1907, alors qu'il est toujours à Berne, au bureau des brevets, Einstein fait une expérience de pensée, dont il dira plus tard qu'elle a été l'expérience la plus heureuse de sa vie. Il s'imagine tombant en chute libre, dans le vide. Et il comprend que si on tombe en chute libre dans le vide, on ne sent pas son poids. Alors c'est bizarre, parce que quand on tombe, c'est sous l'effet de son poids. Mais il comprend que le fait de tomber du fait de son poids annule la pesanteur. Pourquoi ? Parce que si je tombe, par exemple, si je tombe avec ce micro dans la main, si pendant ma chute, je lâche le micro, il n'a pas la même masse que moi, mais comme tous les corps tombent avec la même vitesse, par rapport à moi, il sera en apesanteur. Donc alors même que je subis l'apesanteur, en deux mots, l'apesanteur, je me retrouve en apesanteur. La cause produit un effet qu'annule la cause. En faisant ça, il n'a rien inventé, il n'a fait que lire les équations de Newton. Mais il en a déduit ce qu'il a appelé le principe d'équivalence, à savoir qu'il y a une équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et c'est cette idée qu'il va théoriser, formuler mathématiquement. Ça va lui demander un effort incroyable avec en bénéficiant toutefois de l'aide de grands mathématiciens comme Grossman. Et en 1915, il a une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appuie sur ce principe d'équivalence et qui montre que la gravitation, en effet, n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Tout ça pour dire que quand ce qu'on apprend à l'école souvent, c'est qu'on dit quand il y a une contradiction entre une prédiction théorique et un résultat d'expérience, une mesure ou bien une observation, c'est forcément la théorie qui a tort. On apprend ça à l'école. Hein. Contradiction entre la théorie et les faits, ben, il faut changer la théorie. Ben, l'histoire de la physique montre que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous raconter deux épisodes intéressants de ce point de vue-là. Au début du XIXe siècle, on a les équations Newton pour la gravitation, on comprend parfaitement la mécanique céleste. Il y a une planète qui est la plus loin du Soleil, du moins à l'époque, qui s'appelle Uranus. On peut calculer sa trajectoire, on voit qu'elle est elliptique, conforme à ce que les calculs newtoniens permettent de déterminer. Mais on voit quand même que rotation après rotation, il y a un petit décalage. Et Uranus ne suit pas exactement la trajectoire calculée grâce à la théorie de Newton. Les gens ont confiance en Newton, et donc ils imaginent qu'il doit y avoir une planète inconnue dont l'effet gravitationnel sur Uranus, faible, explique le petit désaccord mesuré. Ils font des calculs, alors en France c'est Arago, Le Verrier. En Angleterre, c'est Adams. Ils font des calculs, d'ailleurs c'est étonnant, ils font des calculs avec des méthodes différentes. Tous les calculs sont faux, mais donnent le bon résultat. Et ils présentent le résultat à l'Académie des sciences, qui n'est pas convaincue. Et vexé, Arago envoie ses calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall, qui le soir même pointe son télescope à l'endroit indiqué, voit un point lumineux nouveau, attend la nuit pour vérifier que c'est bien une planète et pas une étoile fixe, et le lendemain matin proclame la découverte, la première découverte astronomique faite par le calcul. En fait, il a découvert Neptune. Et donc, à partir d'un désaccord entre la théorie et l'observation, on a là trouvé une solution qu'on pourrait qualifier d'ontologique. C'est-à-dire qu'on a guéri le désaccord en imaginant qu'il existait un objet inconnu jusqu'alors dans l'univers, dont l'existence permet de rétablir l'accord. Un peu plus tard, les astronomes s'intéressent à la planète Mercure, qui elle est la plus proche du Soleil. Trajectoire elliptique, magnifique. Mais le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil sur la trajectoire, rotation après rotation, se décale un petit peu de ce que prévoient les calculs. Et l'écart est vraiment minime. C'est 43 secondes d'arc par siècle. Et si on fait tourner Mercure pendant un siècle, le périhélie se décale de 43 secondes. C'est-à-dire c'est un angle qui correspond à l'épaisseur d'un cheveu vu depuis une distance d'un mètre. Donc c'est zéro, quasiment. Donc il y a des gens qui disent, en fait c'est zéro. D'autres leur répondent, mais non, c'est pas zéro, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Alors on parle d'une anomalie. Et on se dit, mais finalement c'est simple, c'est comme pour Uranus. Il doit exister une planète inconnue dont l'existence explique ce désaccord. Les mêmes, Arago, Le Verrier, font le calcul. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils baptisent la planète avant qu'on la découvre. Ils l'appellent Vulcain. On pointe les télescopes à l'endroit indiqué, on voit rien. Les gens échafaudent de toutes sortes d'hypothèses, on pourrait en parler pendant des heures, des nuages gazeux, des planètes diffuses, toutes sortes de trucs sont invoqués, mais on ne doute pas qu'il existe dans l'univers une structure dont la présence rétablirait l'accord. Et puis arrive un gars qui dit « Ce problème du périhélie de Mercure est la preuve que les équations de Newton sont fausses. » Ce gars, il s'appelle Albert Einstein. Et au mois de janvier 1916, donc quelques jours après avoir publié la théorie de la relativité générale, il publie le calcul du périhélie de Mercure. et il trouve 43 secondes d'arc partiel. D'accord ? Donc vous voyez que devant le même problème, une anomalie d'une trajectoire d'une planète, dans le premier cas, la bonne solution était ontologique. Dans l'autre cas, la solution était législative. Il a fallu changer la loi physique, la théorie. L'explication, c'est que Mercure est très proche du Soleil. Donc le champ de gravité que cette planète ressent, si j'ose dire, est beaucoup plus fort. Et donc les effets relativistes se voient davantage. Bon. Juste pour aller très vite vers la conclusion, parler de la question posée, le statut des lois physiques, que je n'ai pas encore traité. Il y a un exemple récent qui montre, qui est intéressant parce qu'il mélange une solution législative et une solution ontologique. Vous avez entendu parler du boson de Higgs, je pense. Ben c'est ça. Dans les années 60, on décrit les interactions fondamentales, autres que la gravitation, par des théories de jauge, comme on dit en physique quantique, et c'est des théories qui associent à toutes les interactions un groupe de symétrie mathématique. Et ça marche très bien, ça rencontre des résultats des expériences qu'on fait auprès des accélérateurs, des collisionneurs, enfin le modèle standard comme on l'appelle, marche très bien. Il rencontre des faits. Mais il y a des physiciens qui se disent, mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si ce modèle standard était vraiment vrai? Et à leur grande surprise, ils montrent que, à cause des symétries utilisées pour décrire les interactions, si le modèle standard était vraiment vrai, alors les masses de toutes les particules élémentaires devraient être nulles. Ce qui n'est pas le cas. L'électron a une masse non nulle, les quarks ont une masse non nulle. Et donc, il y avait un désaccord entre la théorie, le modèle, et puis les mesures. Ben, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ben, c'est la preuve que le modèle est faux, il faut trouver d'autres façons de décrire les interactions. On a inventé les théories technicolores à l'époque, d'autres. Et puis, il y a trois jeunes gars qui ont 25 ans, qui sont en post-doc. L'un s'appelle Peter Higgs, il est écossais. Deux autres travaillent ensemble en Belgique, ils s'appellent François Englert et Robert Brout, disent, mais peut-être que, en fait, les équations ont raison. Rappelons-nous de Galilée. Faire de la physique, c'est expliquer le réel par l'impossible. Donc peut-être que ces lois qui disent le contraire de ce qu'on mesure sont quand même vraies, et c'est nous qui avons mal compris ce que nous mesurons. Au lieu de répéter depuis la nuit des temps que la matière et la masse sont deux concepts intriqués, c'est-à-dire que les particules de matière ont une masse du seul fait qu'elles sont de matière, autrement dit la masse est une propriété primitive des objets matériels, pourquoi ne pas imaginer que la masse serait une propriété secondaire des particules, qu'elles acquièrent alors qu'elles ont une masse nulle, par interaction avec le vide qui n'est pas vide. Et donc ces gens proposent une solution qui est ontologique, parce qu'ils disent qu'il doit exister dans le vide un champ qui est partout présent, qu'on va appeler le champ de Higgs. Et elle est législative, parce qu'ils vont changer des choses dans la théorie en disant que les particules sont couplées à ce champ, et plus elles sont couplées, plus leur masse apparente sera grande. Par exemple, les particules qui ne sont pas couplées à ce champ iront à la vitesse de la lumière, nous dirons qu'elles ont une masse nulle, et puis celles qui sont fortement couplées seront ralenties, iront moins vite que la lumière, et nous qui les voyons passer, nous dirons qu'elles ont une masse non nulle. Autrement dit, ce qu'on appelle la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules de matière, mais une mesure du couplage qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas avec le champ de Higgs. C'est cette hypothèse qui a été vérifiée par la détection du boson de Higgs, qui, le boson c'est les quantas du champ, en 2012 grâce au LHC. D'accord ? Donc vous voyez, les lois physiques, c'est pour ça qu'il faut les apprendre. C'est des lois qu'on ne peut pas critiquer par l'invocation du sens commun, comme on le fait aujourd'hui. Regardez les arguments des climato-sceptiques, juste comme ça. Des gens qui s'appuient sur le bon sens pour critiquer les climatologues. Pas tous, hein, mais celui que j'ai cité tout à l'heure, là, qui nous expliquait que les climatologues étaient des imposteurs au motif qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo au-delà de 15 jours. C'est un argument éloquent qui a convaincu beaucoup de gens. mais qui est évidemment complètement faux. Et on peut se demander pourquoi cet argument a pu être répété toutes les semaines à la télévision, sans que jamais un journaliste n'interrompe le monsieur pour lui dire: mais monsieur, si votre argument était vrai, je ne pourrais pas dire qu'au mois d'août 2019 à Poitiers, il fera plus chaud qu'au mois de janvier à Poitiers. Et pourtant, je vous garantis qu'au mois d'août, il fera plus chaud. Donc je fais une prédiction climatique qui va au-delà de l'horizon de la météo. Voilà. Donc l'argument de bon sens est éloquent, mais il est dramatiquement faux. Et il y a beaucoup de domaines, je ne vais pas insister là-dessus, mais une forme de populisme scientifique par lequel on se croit autorisé à réclamer de pouvoir contester un discours scientifique au motif que le bon sens, qu'on rebaptise esprit critique, permettrait de contester ce que disent les scientifiques. Je ne dis pas qu'ils disent la vérité. Je dis que pour les contester, il faut quand même avoir des arguments autres que le ressenti ou des choses comme ça. Je m'égare. Alors maintenant, j'en viens, dans les 10 minutes qui me restent, à parler de cette histoire du statut des lois physiques. Alors, les lois physiques sont des lois qui sont, pour le dire avec le jargon des physiciens, qui sont invariantes par translation du temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lois sont vraies à tous les instants du temps. Ceux d'entre vous qui ont déjà écrit des équations de physique ont peut-être écrit le paramètre T dans les équations et se sont rendus compte que le paramètre T qu'on met dans une équation de physique un statut très bizarre, c'est que le paramètre temps ne dépend jamais du temps. Étonnant ça. C'est-à-dire, le temps n'est jamais fonction du temps. C'est-à-dire la façon d'écrire T ne dépend pas de l'instant que vous désignez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les instants du temps ont le même statut vis-à-vis des lois physiques. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Elles ne changent pas à mesure que le temps passe. Il y a même un théorème très important qu'on appelle le théorème de Noether qui montre que ce que je viens de dire là a comme implication la conservation de l'énergie. D'accord? Alors dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles ont été les mêmes à tous les instants du passé et seront les mêmes à tous les instants du futur, ça paraît être un énoncé complètement métaphysique, au-delà de ce que l'expérience commune ne peut nous montrer. Et en même temps, c'est un argument qui correspond à une vérité de la palisse. Je veux dire par là que c'est un argument que vous-même, sans même vous être posé forcément la question, vous considérez comme absolument vrai. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'imagine que vous avez appuyé sur le bouton marche-arrêt de votre four à micro-ondes. Il a marché. Imaginons, c'est une expérience de pensée, hein, que demain matin, vous appuyez sur le même bouton du même four à micro-ondes et que cette fois, il ne marche plus. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez appelé le réparateur en disant: Madame, monsieur, mon four est tombé en panne. Vrai ou pas? Vous allez dire ça. Alors qu'il y a une autre hypothèse que le fait que le four est tombé en panne qui pourrait vous venir à l'esprit. C'est qu'au cours de la nuit, les lois de l'électromagnétisme qui ont servi à des ingénieurs pour dimensionner ce four à micro-ondes aient changé. Et donc si l'appareil ne marche pas demain matin, c'est non pas parce qu'il est tombé en panne, mais parce que les lois physiques ont changé. Cette idée ne vous vient pas à l'esprit. De sorte que quand vous dites qu'un appareil qui a marché est tombé en panne, vous invoquez vous-même l'invariance des lois physiques. D'ailleurs, si j'étais constructeur de four à micro-ondes, dans la notice, je mettrais: cet appareil ne peut pas tomber en panne. S'il ne marche plus, c'est parce que les équations de Maxwell ont subi une variation inopinée. D'accord? Alors, vous voyez, quand je dis que les lois ne changent pas, c'est un énoncé qui semble être en contradiction avec ce que vous savez par ailleurs, à savoir que l'univers a une histoire. L'univers est en évolution, il est en expansion, et nous savons qu'il n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est. Il y a eu des périodes où il n'y avait pas d'atomes, que des particules élémentaires. Vous avez entendu parler du Big Bang. Donc l'univers a une histoire. Mais alors comment se fait-il que l'univers puisse avoir une histoire, changer lui-même de conditions physiques, alors que ses lois ne changent pas? Ça, c'est un argument tellement fort que Einstein lui-même pensait que l'univers était stationnaire. Il remarquait que les lois physiques sont invariantes. Il en déduisait que l'univers doit être lui-même invariant. Et c'est dans les années 30 qu'on s'est rendu compte qu'il était en effet en expansion. Einstein a accepté la chose, même s'il a eu un peu de mal à l'avaler. Mais on a compris, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que quand nous disons que l'univers a une histoire, ça ne sous-entend pas que les lois physiques varient. Ça veut simplement dire que les conditions physiques varient. Autrement dit, la densité d'énergie, la température d'une zone de l'espace-temps évolue au cours du temps et sont pilotées par des lois qui, elles, n'évoluent pas. Et ça, ça a donné l'idée aux physiciens d'un moyen permettant de comprendre ce qui s'est passé dans le passé avec l'argent des contribuables. On demande de l'argent aux contribuables, on creuse un tunnel circulaire. Dans ce tunnel, on construit un accélérateur comme LHC qui coûte 3 milliards d'euros. On fait des collisions de protons à haute énergie. Et dans un petit volume d'espace pendant un temps très court, grâce aux collisions, on va recréer les conditions physiques de l'univers primordial. En l'occurrence, au CERN, on recrée les conditions physiques qui étaient celles de l'univers quand l'énergie moyenne des particules élémentaires était celle d'un moustique en vol. Chaque particule avait l'énergie d'un moustique. On fait ces collisions et donc on recrée dans le présent les conditions physiques du passé. Comme les lois physiques n'ont pas changé, nous voyons se dérouler dans le présent les phénomènes physiques qui s'étaient déroulés dans le passé et qui aujourd'hui sont impossibles à cause du fait que la température dans l'univers n'est pas assez élevée pour que ces phénomènes puissent se produire. Donc en fait, on a réchauffé le vide quantique localement et on a donné de l'énergie aux particules fatiguées qui stagnaient depuis 13 milliards d'années. On les a fait sortir du vide et on les a détectées grâce aux gigantesques détecteurs qui sont installés là-bas. D'accord ? Donc, quand on dit qu'on a découvert le boson de Higgs, ça ne veut pas dire qu'il existe des bosons de Higgs dans l'univers. En fait, il n'y en a plus. Ce qui reste, c'est le champ de Higgs et les quantas de ce champ sont complètement flappies et on les réveille en mettant dans le vide quantique l'énergie qui manque à ces particules pour être vraiment réelle. Vous voyez que l'invariance des lois physiques est utilisée pour comprendre le passé grâce à des expériences faites dans le présent. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que les lois physiques dont je parle sont solidaires de l'univers ou est-ce qu'elles résident hors de lui ? Pour le dire en termes philosophiques, est-ce qu'elles sont transcendantes ou est-ce qu'elles sont immanentes ? À cette question que je dis là en termes peut-être impressionnants, mais on va ramener la question à une situation plus concrète. Imaginons que l'univers a une origine. Alors dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par du néant. Pas tous les gens qui vous disent l'origine de l'univers, c'est ceci ou c'est cela, sont des gens qui prononcent des phrases qui contredisent l'idée que l'univers a une origine. Vous êtes d'accord avec ça ? Si je dis par exemple l'origine de l'univers, c'est le vide quantique, ou bien c'est un trou noir, ou bien ce que vous voulez. Bien, ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là. Ça veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là, au sens où elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée. À ce moment-là, ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous nommez l'origine, vous contredisez l'idée d'origine. Pour une raison très simple, c'est que quand vous faites de la physique et que vous parlez de l'origine des choses, vous racontez l'histoire qui a précédé l'apparition de ces choses, dont ces choses sont l'achèvement. Autrement dit, pour un physicien, commencer, c'est toujours une façon d'en finir. Pour un physicien, le mot origine veut dire conclusion, ou il veut dire achèvement. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire dont cette chose est l'achèvement. Alors, si je vous raconte l'histoire des atomes, ben, je vous raconte ce qui s'est passé dans les étoiles avant que les atomes apparaissent. Donc ça marche très bien pour raconter l'origine des choses qui sont dans l'univers. Mais pour l'univers lui-même, problème, c'est que si vous racontez l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est l'achèvement, ça veut dire qu'avant l'origine de l'univers, il y a eu une histoire. Donc ça ne va plus. Autrement dit, la différence qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'origine des choses qui sont dans l'univers, c'est que les unes sont relatives, ce sont des généalogies, alors que l'origine de l'univers, c'est un absolu. C'est la transition du néant vers l'être, ou du non-être vers l'être, vous le dites comme vous voulez. Et donc la question est, quand cette transition a eu lieu, si elle a eu lieu, est-ce que les lois physiques étaient déjà là ? Donc si l'univers a une origine, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu des électrons. Il y a même eu un moment où il n'y avait pas d'électrons du tout. Donc, je fais apparaître, où il y a deux électrons qui apparaissent dans l'univers. Si l'univers a une origine, il y a un moment où les deux premiers électrons sont apparus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont une charge électrique négative, on apprend à l'école qu'ils se repoussent. Mais est-ce qu'ils l'ont fait vraiment ? D'abord, comment est-ce que les électrons savent qu'ils doivent se repousser ? Ils sont les premiers, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas la loi de Coulomb qui dit qu'ils doivent se repousser. Et donc, est-ce que cette loi physique est engrammée dans leur structure ? Est-ce qu'elle est engrammée dans la structure même de l'univers ? Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, chère à vos élus régionaux, je crois, enfin en tout cas à l'une d'entre elles, ils négocient avec l'univers en lui disant « Univers, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Est-ce qu'on se repousse en 1 sur R2, 1 sur R3 ?» Évidemment, personne n'en sait rien. Autrement dit, est-ce que les lois physiques étaient déjà là ? Ou est-ce que l'univers s'est adapté à son contenu pour trouver des lois qui permettent de gérer l'affaire ? Que font les humains quand ils écrivent des lois pour la cité ? Il y a des lois qui sont un peu transcendantes, c'est-à-dire qui s'inspirent d'une forme de morale dont on ne sait pas très bien où elle est située, mais on l'applique à la vie de la société. Puis il y a d'autres lois qui sont des réponses à de nouveaux comportements. Dès qu'il y a une nouvelle forme de délinquance, eh bien, on invente des lois qui viennent la contrôler, on légifère, on invente des lois qui correspondent à une adaptation de notre arsenal législatif à une nouvelle donnée dans la société. Est-ce que l'univers a fait la même chose ? Est-ce que l'univers avait déjà ses lois quand il est né ? Ou est-ce que les lois sont apparues au fur et à mesure, au cours de son évolution, pour qu'il puisse s'adapter à son contenu ? Alors, j'ai un peu regardé du côté des philosophes pour voir s'ils avaient une réponse à ces questions. Et j'ai trouvé des réponses intéressantes que je vais vous livrer rapidement. Comme c'est de la philosophie, je ne connais pas les choses par cœur, je vais lire. Alors, il y a une première piste qui est intéressante, qui est celle de Platon, d'une certaine façon, qui considère que les lois physiques sont des produits de la pensée, ou du moins qu'elles sont inséparables de notre pensée. Mais la question, c'est de quelle pensée s'agit-il ? Est-ce que c'est la pensée de l'homme, qui est une infime partie de l'univers ? Mais alors, comment celle-ci pourrait-elle saisir la nature du tout qui la contient ? Comment les lois physiques parviendraient-elles à participer à la fois du monde qu'elles structurent et de la pensée qui permet de comprendre ce monde ? C'est le problème du platonisme. Platon, c'est l'idée qu'il y a deux mondes. Il y a le monde empirique et il y a le monde des idées intelligibles. Platon ne parle pas de loi physique, hein, mais on l'adapte un petit peu. Et il y a l'idée que les lois physiques sont dans un autre monde, un peu comme il explique dans ce livre qui s'appelle Le Timé. Le Timé, hein, c'est l'idée qu'il y a le monde des idées, il y a le monde empirique. Comment est-ce que les deux sont organisés? Ben, il y a un démiurge qui regarde les idées et qui, avec sa main, manipule la kora, c'est-à-dire la matière, et s'arrange pour que la kora ressemble aux idées. Par exemple, il voit l'idée de cercle et il essaie de faire des cercles. Alors, comme il ne peut pas bricoler en regardant à la fois ce qu'il fait et les idées, ben, le cercle qu'il fait est imparfait. Mais il faut un démiurge, un intermédiaire. Et la question que je viens de poser là, c'est si les lois sont ailleurs que dans l'univers, si elles ne sont pas immanentes mais transcendantes, d'où vient que nous pouvons y avoir accès? Est-ce que les mathématiciens, les physiciens ont un cerveau spécial qui les connecte au monde des idées, de sorte qu'ils peuvent ramener ensuite les idées à une application vers le monde empirique? Une autre réponse est proposée par Spinoza. Spinoza, c'est un peu la même idée, mais quand même formulée différemment. Pour lui, il y a deux sortes d'univers. Ou plutôt, il n'y a qu'un seul univers qui se donne sous deux modes différents. L'univers en tant qu'il est, d'une part, qui est conçu sous l'attribut de l'étendue, et d'autre part, un autre univers qui est conçu sous l'attribut de l'intellect, c'est-à-dire en tant qu'il obéit à l'ordre intelligible des lois éternelles. En d'autres termes, il considère qu'il y a d'un côté un univers matériel et spatial doté d'un certain mobilier ontologique et de l'autre un univers législatif contenant des lois, des principes, des règles accessibles par la pensée. Mais là encore, on retrouve un problème, le même que chez Platon, c'est comment ces deux modes d'être de l'univers communiquent-ils entre eux? Comment l'univers qu'il appelle législatif communique avec l'univers matériel? Comment les électrons savent qu'ils doivent se repousser? On peut aussi suivre Leibniz, notamment si on croit en multivers, hein, notion que peut-être vous connaissez, et considérer que le système des lois définit un ensemble d'univers possibles. Il y a toutes sortes de lois qu'on peut imaginer qui déterminent autant d'univers possibles, logiquement cohérents, parmi lesquels le nôtre serait un cas particulier choisi par Dieu en raison de ses qualités exceptionnelles, le meilleur des mondes possibles, dit Leibniz, ou pas choisi du tout. Et là, vous reconnaissez, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions de cosmologie, ce qu'on appelle le principe anthropique. Le principe anthropique, c'est l'idée que les constantes de la physique, constante de gravitation, Newton, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, si on veut l'ajouter, sont des constantes qui, si on en change la valeur, par la simulation par exemple, permettent de penser des univers différents, régis par des lois physiques différentes, puisque la valeur des constantes est modifiée, mais dans lesquelles la vie ne peut pas apparaître. Par exemple, si vous changez un peu la valeur de la constante de gravitation, la vie des étoiles est modifiée. Si elle est, par exemple, si elle est plus forte que celle de notre univers, la pression dans les étoiles va être plus grande, la température va être plus élevée, et l'étoile va brûler son combustible en hydrogène avant d'avoir eu le temps de fabriquer le carbone. Pas de carbone, pas de vie. Et donc, le principe anthropique, c'est ça. Les constantes ont l'air d'être telles que la vie est possible. Je ne dis pas qu'elle était, la vie était la finalité de ce choix. Je ne sais même pas s'il y a eu choix. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Pourquoi est-ce que les constantes ont la valeur qu'elles doivent avoir pour que la vie soit possible? Il y a des gens qui s'opposent à ça en disant, mais non, il y a autant d'univers qu'il y a deux constantes différentes. Chaque univers est régi par des lois physiques adaptées aux constantes qui sont les siens. Et nous, on a la chance d'être dans l'univers où la vie est possible. Donc, ce n'est pas un choix qui a été fait, c'est simplement qu'on est dans le seul univers dans lequel des êtres humains peuvent s'interroger sur le statut des lois physiques. Mais dans tous les cas, il y a cette espèce de problème que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une sorte d'opposition entre la temporalité de l'univers, l'univers est un processus historique, il évolue, et la permanence de ses lois. Et si vous avez cette contradiction dans la tête, laquelle des hypothèses que j'ai citées vous paraît la plus satisfaisante? De prime abord, cette opposition encourage plutôt l'idée que les lois ont un mode d'existence tout à fait différent de celui des êtres du monde dont elles permettent de comprendre l'histoire. L'invariance des lois physiques ne semble pas s'accorder avec la notion d'un univers qui serait fermé sur lui-même, au sens où il produirait de lui-même les lois qui le régissent. Les lois physiques devraient plutôt appartenir à un autre monde, à un monde législatif fixe de type platonicien, qui aurait la capacité d'agir sur le développement historique de notre univers. Alors, avant de venir ici, j'ai fait un petit sondage à Saclay, au laboratoire de physique théorique. À Saclay, au CEA, il y a le plus grand laboratoire de physique théorique du monde. Je veux dire par là qu'on y a mis, on a une politique qui consiste à mettre tous les théoriciens ensemble, quel que soit le sujet de leur étude, alors que partout ailleurs dans le monde, on met les théoriciens de la physique des particules avec les physiciens des particules qui font des expériences, les théoriciens de la matière condensée avec les physiciens du solide qui font des expériences. Bref, c'est des petites équipes associées aux équipes expérimentales. Nous, on a choisi de mettre tous les théoriciens ensemble, quel que soit leur sujet d'étude, pour qu'ils discutent, etc. Et je les ai interrogés. Et en fait, la plupart, soit considèrent que la question que je leur pose, quel est le statut des lois physiques, est pour une question métaphysique. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais la réponse. Et ceux qui admettent que c'est intéressant de se poser la question quand même, avouent pour la plupart, 80%, qu'ils sont platoniciens. Qu'ils sont platoniciens, c'est-à-dire que, un peu comme la plupart des mathématiciens, ils pensent que les lois physiques ont un statut à part et qu'elles échappent d'une certaine façon à l'immanence du monde. D'où la facilité avec laquelle ils considèrent qu'elles étaient déjà actives au moment de la naissance de l'univers. Elles ont un statut différent. Alors, il y en a quand même qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. C'est une hypothèse qui ne fait donc pas l'unanimité. Certains physiciens, dont l'un que je vais citer, qui s'appelle Lee Smolin, qui est un physicien canadien, qui va d'ailleurs publier un livre dans quelques semaines sur cette question. Enfin, le livre est déjà sorti aux États-Unis, mais il est en cours de traduction en France. Il considère, je le cite, que l'invocation d'une invariance absolue des lois physiques, qui ne ferait que téléguider l'évolution de l'univers, relève d'un postulat dont la physique contemporaine devrait se débarrasser de toute urgence. Elle pose en effet la question de savoir ce que faisaient les lois physiques, supposées identiques à elles-mêmes de toute éternité, avant qu'apparaissent l'espace, le temps, la matière, l'énergie. Était-elle déjà là, demande Smolin, à attendre patiemment qu'un univers veuille bien se donner le mal d'apparaître afin de les rendre effectives? Mais que signifie attendre quand il n'y a pas de temps? Et où étaient-elles ces lois? D'où provenaient-elles? De quel empirer des idées pures qui auraient surplombé le néant? Parce que finalement, le discours platonicien, si on l'associe à l'idée que l'univers a l'origine, suppose que le néant initial a cohabité avec les lois physiques. Mais la question, c'est pas du Raymond DeVos, mais presque. Un néant qui cohabite avec des lois, est-ce que c'est encore un néant? Est-ce qu'un néant, pour mériter cette appellation de néant, ne doit pas être seul au monde, si j'ose dire? Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et donc, ce que suggère Lee Smolin, c'est une idée intéressante. Je ne sais pas si elle est très discutée, mais en tout cas, je vous la livre. Il y aurait, dit-il, comme une sélection naturelle, par une sorte de mariage entre Einstein et Darwin, d'ordre cosmologique des lois physiques qui permettrait à l'univers de changer au cours du temps ses propres lois d'évolution. L'univers s'adapterait en quelque sorte à son état et ses lois physiques ne s'actualiseraient que lorsque les objets auxquels elles s'appliquent deviendraient effectivement présents. Par exemple, les lois de l'électromagnétisme n'apparaîtraient qu'à partir du moment où des particules chargées apparaîtraient dans l'univers. Et donc, la loi serait une adaptation de l'univers à une variation de son mobilier ontologique. Et cette idée, en fait, avait déjà été suggérée par un philosophe du XIXe siècle qui s'appelle Charles Peirce. Et elle permet d'accorder à tout instant présent une singularité qui le distingue des autres. chaque maintenant, chaque moment présent de l'univers pourrait être caractérisé par un certain état des lois physiques permettant de le distinguer de tous les maintenant qui l'ont précédé et de tous ceux qui le suivront. Alors, c'est quand même une hypothèse intéressante, mais qui est bornée par le fait que, aussi loin qu'on puisse regarder avec les télescopes, on voit des étoiles qui sont telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années, par exemple, et pour autant qu'on puisse le savoir, les lois qui structurent la vie de ces étoiles il y a 13 milliards d'années sont les mêmes lois qu'aujourd'hui. Donc peut-être que dans l'univers primordial, c'est en tout cas une des possibilités qu'envisage la théorie des cordes, les constantes fondamentales ont fluctué. En tout cas, depuis 13 milliards d'années, elles sont fixes. En tout cas, la précision qu'on a sur leur stabilité est très très grande. Il y a d'autres expériences qui permettent de le démontrer, sur lesquelles je parlerai s'il y a des questions. Mais en tout cas, sur 13 milliards d'années, on est sûr que les constantes sont bien des constantes. Avant, on peut discuter. Mais si vous croyez à une adaptation des lois par l'univers en fonction de l'évolution de son mobilier, alors vous voyez que ça amène d'autres questions. Existe-t-il ou non une métaloi qui pilote l'évolution des lois physiques? Si oui, cette métaloi évolue-t-elle elle-même? Et donc la question de l'origine des lois physiques est toujours amenée à se déplacer, en l'occurrence de loi en métaloi, de métaloi en superloi, de superloi en métasuperloi, etc. Est-ce qu'il y a une loi des lois, etc. Ça n'en finit plus. Et donc vous voyez que, ce sera ma conclusion, la question de l'origine de l'univers, quand on la traite par l'invocation de lois physiques, que ce soit la théorie des supercordes ou la relativité générale, ou d'autres théories qui essaient d'unifier la physique quantique et la gravitation, sont des théories qui n'arrivent pas à dire, par leur simple application, quel est le statut qu'elles donnent aux lois physiques et la relation que les lois physiques ont avec l'univers empirique auquel elles s'appliquent. Voilà ce que je voulais vous dire en ayant un peu débordé mon temps, je m'en excuse. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, sauf si elles sont métaphysiques. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Étienne Klein. Merci beaucoup de ne pas avoir répondu à la question que vous posiez dans votre titre. Je dois dire d'ailleurs que si vous l'aviez fait, si vous aviez donné des réponses, j'aurais été un petit peu déçu.
Fallait me le dire.
Vous avez certainement tous remarqué, vous savez tous, que le sous-titre, un petit peu prétentieux sans doute, de notre association Voix publique, c'est « Les agitateurs de sens ». Vous nous avez agités fortement. J'espère que personne n'a le mal de mer, mais on s'en remettra, mais il faut peut-être un petit moment quand même pour rassembler nos esprits. Et, ceci dit, nous avons le temps, même si vous avez dépassé, vous n'avez pas dépassé d'ailleurs, nous avons le temps pour un certain nombre de questions de la salle. Et, le problème, c'est que je suppose qu'il n'y a pas de retour avec le... Si, il y a un retour ? D'accord. Donc, ceux qui sont dans le planétarium peuvent également poser des questions. Je ne sais pas comment, mais la technique le sait. Qui commence ?
Merci pour cette première question, le temps de me déplacer. Alors, juste, on enregistre la conférence, donc vous pourrez réentendre monsieur Klein. Et donc, c'est pour ça que je vous demanderai d'utiliser le micro pour les questions également.
Bonsoir monsieur, et alors je suis absolument ravi parce que je vous ai lu cet été, j'ai dégusté votre livre comme on suce un bonbon très agréable et j'ai le plaisir de vous entendre ce soir. J'ai une question toute simple, vous n'avez pas évoqué Kant et pourtant je l'entends en filigrane dans tout ce que vous nous avez dit ce soir.
Merci pour cette... enfin merci, non pas merci. Non, alors justement... Pourquoi je n'ai pas évoqué Kant ? C'est une très bonne question, parce que la réponse tient dans le voyage en train que je viens de faire pour venir à Poitiers. C'est que Il y a eu, il y a quelque temps, un livre publié par un philosophe de l'école normale qui s'appelle Quentin Meillassou, qui s'intitulait « Après la finitude ». Et c'était un livre, en quelque sorte, contre Kant, puisque il nous disait que les physiciens sont capables de raconter des histoires qui remontent à des périodes de l'univers qui précèdent l'apparition de l'homme. On sait en gros que l'univers a 13,7 milliards d'années, que l'homme, je parle du genre homo sans aller dans les détails, c'est 2 à 3 millions d'années, et que du coup, l'univers, en tout cas celui que décrivent nos cosmologies, il a passé le plus clair de son temps sans nous. L'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Or, que dit Kant ? Kant dit que le temps est un a priori de notre sensibilité, c'est-à-dire que le temps a à voir avec notre grille de lecture du monde. Pour le dire autrement, le temps a à voir avec les sujets que nous sommes. Ce que disait aussi Saint-Augustin à sa façon, mais Kant, comme d'autres, développe une philosophie qu'on appelle corrélationniste, c'est-à-dire elle fait dépendre le temps des sujets conscients que nous sommes. Et Quentin Meillassou développe l'idée que ce qu'on apprend par la science vient réfuter cette thèse, parce que si on admet que le temps dépend de la conscience des sujets que nous sommes, alors comment le temps a-t-il pu passer avant que les sujets qui le font passer apparaissent dans l'univers? Si les sujets apparaissent dans le temps, comment le temps a-t-il pu passer avant que les sujets qui fabriquent le temps soient produits par le temps? C'est une sorte de paradoxe logique qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Et moi, c'est un texte qui m'avait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, pas mal bouleversé et m'avait fait défendre la thèse qu'en effet, il faut abandonner les philosophies corrélationnistes. Or, dans le train, j'ai lu, commencé de lire, un livre de 600 pages, écrit par Michel Bitbol, qui s'intitule « Maintenant la finitude », avec comme sous-titre « Peut-on penser l'absolu ?», qui est une réfutation de la thèse de Quentin Meillassou. Et une sorte de critique et en même temps de réhabilitation de Kant que je suis en train de découvrir. Et comme je ne l'ai pas tout à fait comprise, j'ai préféré garder le silence sur Kant. Mais je reviendrai pour vous en parler.
Avec plaisir. D'autres réactions dans cette salle? On peut passer le micro au planétarium par les voies de la technique. Donc s'il y a des questions au planétarium, Héloïse, merci de manifester. Passé mon temps.
Pas de questions pour l'instant.
Merci. Donc, je reviens dans notre salle.
Bonjour et merci pour votre présentation. J'avais lu une fois une théorie selon quoi tout serait cyclique. Mais après, je ne suis pas un expert, donc je ne sais pas si vous pensez ce que vous en pensez.
Tout serait cyclique. Alors. Tout serait cyclique. Alors, bon, en effet, il y a des philosophies qui ont développé l'idée que tout se répète, etc., que le temps lui-même se répète. Ça a même certains échos en cosmologie. Il y a des modèles d'univers aujourd'hui qu'on appelle les modèles équipyrotiques, selon un terme qui avait été utilisé par Héraclite, avec l'idée que un Big Bang va déclencher une expansion de l'univers, puis une contraction, un Big Crunch, puis à nouveau un Big Bang, etc. Avec l'idée d'univers qui se répète par cycle. Maintenant, l'idée d'un éternel retour ou d'un univers complètement cyclique ou d'un temps cyclique est une idée en fait absurde. C'est-à-dire, alors je dis ça de façon un peu provocatrice, mais imaginez que le temps soit vraiment cyclique, que le temps fasse des boucles. Donc vous avez par exemple une première vie, un premier cycle, puis vous entamez un deuxième cycle, etc. Est-ce que vous pouvez vivre dans ce contexte-là ce que Nietzsche appelait un éternel retour? La réponse est non. Parce que vous avez vécu le premier cycle. Vous entamez le deuxième. De deux choses l'une. Ou bien vous vous souvenez du premier, ou bien vous ne vous en souvenez pas. Il y a eu un reset de la mémoire. Si vous vous souvenez du premier, en vivant le deuxième cycle, vous reconnaissez que vous êtes déjà passé par là. Donc vous n'êtes pas dans la situation de la première vie. La deuxième est différente parce que vous connaissez ce que vous allez vivre, ou vous reconnaissez ce que vous vivez. Ou bien, au moment d'entamer le deuxième cycle, vous avez complètement oublié le premier, mais dans ce cas-là, vous ne savez pas que c'est le deuxième. Donc il est impossible de vivre consciemment deux fois la même expérience. D'accord ? Et c'était tout un travail pour les physiciens, disons les philosophes de la nature du XVIIe, XVIIIe siècle, pour comprendre à la fois le principe de causalité, c'est-à-dire que si vous répétez une cause, vous répétez ses effets, et donc il peut y avoir des phénomènes cycliques. Et le principe de causalité qui permet qu'il y ait des phénomènes cycliques empêche le temps lui-même d'être cyclique. Ça, ça a été très compliqué. Et c'est ça qui a amené à l'idée d'un temps linéaire, un temps qui ne fait pas de boucle. Parce que le principe de causalité ne peut pas s'inscrire dans un temps cyclique. Si le temps est cyclique, par exemple, vous avez une cause que j'appelle A qui va enclencher un effet ultérieur que j'appelle B, si le temps est cyclique, en allant dans le futur de B, vous revenez dans le passé de A. Donc un effet pourrait rétroagir sur sa propre cause, ce qui violerait le principe de causalité. Et c'est pour cette raison qu'à partir en gros de Newton, on a pris un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui ne peut pas repasser dans son futur par un instant qu'il a déjà traversé dans son passé. Et donc, il y a une sorte de protection chronologique du passé par le fait que le temps ne repasse pas par les mêmes points. Mais l'univers peut être cyclique. Hein. Moi, je connais pas le dessin de l'univers, mais aujourd'hui, vous savez, il y a pas mal d'embarras avec l'énergie noire, le fait que l'expansion s'accélère. S'il y a vraiment une énergie noire, ça veut dire que l'expansion va continuer indéfiniment et il n'y aura jamais de recontraction. Si au contraire, il n'y a pas d'énergie noire, mais qu'on s'est trompé sur les équations d'Einstein, on peut tout imaginer. Donc, on ne peut pas exclure que l'univers pulse et qu'il y ait en effet une cyclicité dans son histoire. Mais je ne connais pas la suite de l'histoire, pour tout vous dire.
Moi, je reviens par rapport à votre livre qui m'a ouvert les yeux sur le temps, effectivement, et notamment sur, alors effectivement, que le temps soit linéaire, mais surtout qu'il y ait une flèche du temps. Et vous dites à un moment dans le bouquin... effectivement c'est plus une affaire de convention que de, comme les électrons seraient négatifs, plutôt positifs. Et en fait, ce qui m'interroge du coup, c'est que la flèche du temps qu'on dit, finalement on va de l'origine vers le futur, est-ce que on peut, quand on part du principe que c'est une convention, qu'on a déjà vu la fin et qu'on va vers l'origine?
Alors le sujet le sujet qui est autour de votre question, c'est en fait, quand vous prenez les équations de la physique, les équations fondamentales, celles de Newton, celles de la relativité générale, celles de la mécanique quantique, etc., les équations fondamentales, celles qui sont vraiment au cœur des théories, elles ont un point commun, c'est que si vous changez T, le paramètre temps, en son opposé, ça ne change pas les équations. Autrement dit, si le temps s'écoulait à l'envers, ça ne changerait pas les lois physiques. Ou pour le dire autrement, si les équations physiques avaient raison, il n'y aurait que des phénomènes réversibles. Dire qu'on peut changer le sens du temps sans que ça modifie les équations, ça ne veut pas dire qu'on peut retourner volontairement dans le passé. Ça n'autorise pas les voyages dans le temps. Ça dit simplement que tous les phénomènes physiques doivent être réversibles. Autrement dit, si un phénomène physique permet à un système de passer de l'état A, qui est son état initial, à un peu plus tard son état B, les mêmes lois physiques vous disent ensuite l'évolution du système à partir de l'état B pourra le ramener plus tard à l'état A. Donc la physique vous dit, quelle que soit l'évolution d'un système, il pourra toujours retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que les équations sont réversibles. Et au XIXe siècle, des gens ont fait remarquer que c'était absurde, puisque tous les phénomènes que nous voyons autour de nous sont irréversibles. Quand vous mettez une goutte de lait dans votre café, ça fait du café au lait. Si vous voulez boire du café noir, les équations de la physique vous disent bah, « t'attends un peu ». Et ça va, tu vas retrouver, enfin, le café va retrouver son état initial, donc il va devenir noir, et puis il y a une petite goutte blanche qui va se mettre sur le côté, ça sera la goutte de lait, etc. Ben, vous pouvez attendre longtemps, ça ne se fera jamais. D'accord ? Et donc là encore, au XIXe siècle, il y a eu ce paradoxe de la réversibilité, qui est l'objet de ce livre. Ça a été une affaire énorme. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte du débat qu'il y a eu, qui a duré 50 ans, qui s'est terminé par le suicide de Boltzmann. Et les gens disaient, mais les équations de la physique sont fausses, puisqu'elles contredisent l'observation commune, qui est que tous les phénomènes sont irréversibles. Dans le même temps, les ingénieurs qui faisaient des machines à vapeur, etc., mesuraient des rendements, ont inventé une nouvelle science qui s'est appelée la thermodynamique. Ils ont même écrit des équations. Et les équations de la thermodynamique, elles sont étonnantes parce que quand vous changez T en moins T dans les équations de la thermodynamique, ben les équations sont modifiées. Notamment une équation qui s'appelle l'équation de la chaleur. Quand vous changez T en moins T, l'équation est modifiée. Donc ce sont des phénomènes irréversibles. Et donc il y a des gens, notamment en Allemagne, qu'on a appelés les énergétistes, qui ont dit les vraies équations de la physique, c'est les équations de la thermodynamique. Et les équations de la mécanique, celles de Newton, ça marche pour les planètes. C'est des équations pour un monde idéalisé. Mais le monde dans lequel on est, il est régi par des équations irréversibles qui sont celles de la thermodynamique. Et ces gens sont devenus de plus en plus virulents à défendre des thèses, donc l'énergétisme, à dire que l'idée de matière était une entité métaphysique, le vrai concept c'est l'énergie, etc. Le promoteur de cette école de pensée s'appelait Oswald, c'était un physico-chimiste. Et on comprend pourquoi d'ailleurs, hein, pour un chimiste, des équations réversibles, c'est absurde. Hein, souvenez-vous de vos travaux pratiques de chimie. Vous avez un liquide vert, vous mettez une goutte d'un truc rouge, soit ça explose, soit ça sent mauvais. En tout cas, l'état initial est très différent de l'état final. Et quand des équations viennent vous dire, en attendant un peu, tu vas retrouver l'état initial, vous dites, ces équations sont délirantes. Et donc, tous les adversaires de la mécanique, c'est assez marrant, c'est toujours des chimistes. Prigogine, Oswald, etc. Mais il y a un physicien viennois, entendant parler de ce paradoxe, se souvenant de Galilée, le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible, se dit peut-être que les équations réversibles ont raison et que c'est nous qui avons mal compris l'irréversibilité. Et Boltzmann fait un travail absolument dément et résout la contradiction par une solution non pas législative, on change les lois pour prendre les équations de la thermodynamique, il choisit une solution ontologique. Et il dit, je suppose que la matière est faite d'atomes. C'est tout. À l'époque, personne ne croit à l'atome. Hein. On dit que c'est une entité métaphysique, on ne les a jamais vus. Et Boltzmann fait un calcul incroyable. Il montre, si on fait l'hypothèse que la matière est faite d'atomes, notamment les gaz, et si on suppose que les atomes dans les gaz obéissent aux lois de la mécanique qui sont réversibles, alors on peut démontrer que si le nombre d'atomes est très élevé, il va se comporter de façon irréversible. Autrement dit, l'irréversibilité peut être expliquée par des lois réversibles, à condition que le nombre de degrés de liberté dans le système soit élevé. Plus il y a de degrés de liberté, plus l'irréversibilité se montre. Autrement dit, l'irréversibilité que nous constatons est un effet statistique produit avec des lois réversibles. Il va même montrer que la thermodynamique est une physique statistique, une mécanique statistique. Il va retrouver les lois de la thermo à partir des lois de la mécanique appliquées à un grand nombre de particules. On va lui reprocher de faire de la métaphysique. Et en 1906, comme vous savez, un peu fatigué par toutes les polémiques, il se suicide à Trieste, l'année où Jean Perrin démontre l'existence de l'atome. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était quoi la question ? Ah, la flèche du temps. Eh bien, la conclusion de tout ça, c'est que la physique vous oblige à distinguer deux choses que le langage commun et même la philosophie confond, deux formes d'irréversibilité qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Rien à voir, mais on les confond. La première, c'est l'irréversibilité du temps même. Tout instant qui advient est un instant inédit. On ne repasse pas deux fois par le même instant. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Okay ? Ça, c'est l'irréversibilité du temps même. Et au sein de ce temps irréversible, il y a des phénomènes qui sont réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Ceux qui sont irréversibles, nous dirons qu'ils subissent la flèche du temps. Ils ne peuvent pas retrouver dans leur futur un état qu'ils ont connu dans leur passé. Et tout le problème de la physique, c'est comment expliquer la flèche du temps, donc l'irréversibilité des phénomènes, à partir de lois physiques qui sont réversibles. Donc il y a l'argument que j'ai cité, il y en a d'autres qui viennent de la mécanique quantique, d'autres qui viennent de l'expansion de l'univers, je ne vais pas les détailler. Mais le truc, c'est que l'univers empirique, l'univers physique si vous préférez, est moins symétrique que les lois qui le décrivent. Par exemple, les équations du modèle standard de la physique des particules vous disent particules, antiparticules, c'est exactement les mêmes lois physiques. Et elles nous disent aussi que dans l'univers primordial, il y avait autant de particules que d'antiparticules. Question, pourquoi il n'y a plus d'antiparticules ? Pourquoi il n'y a pas d'antiparticules dans l'univers ? Pourquoi on ne voit pas de galaxies d'antiparticules ? Ça veut dire que la symétrie des équations ne se décline pas en symétrie du contenu de l'univers. Il y a une brisure de symétrie. L'univers est moins symétrique que les équations qu'il décrivent. Ça, c'est un problème très général, qui est une autre illustration du fait que les lois physiques prises telles quelles, disent des choses qui contredisent l'observation, sans pourtant qu'on puisse dire qu'elles n'expliquent pas l'observation. C'est ça qui est subtil. Pensez à la matière noire aussi. Vous avez entendu parler de la matière noire. Ben, on regarde les galaxies, on voit comment elles bougent les unes, comment elles tournent sur elles-mêmes, comment elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et on voit que les équations d'Einstein rendent parfaitement compte de cette dynamique, à condition de mettre dans les équations une masse pour ces galaxies qui est 10 fois plus grande que leur masse réelle. Donc là, c'est la solution ontologique. On dit qu'il y a de la matière noire, la matière qu'on ne voit pas, qui agit gravitationnellement. Mais on pourrait dire, et d'ailleurs certains le pensent, c'est les équations qui nous font dire qu'il y a de la matière noire qui sont fausses. Vous voyez, donc ce débat législatif ontologique, on le retrouve tout le temps. Et on ne peut pas dire à l'avance laquelle de ces hypothèses va être la bonne, puisqu'il y a des cas où c'est la première qui a fonctionné et des cas où c'est la seconde.
Est-ce qu'il y a des questions au planétarium, s'il vous plaît ?
Toujours pas.
D'accord, merci. Alors, je repars dans cette salle.
C'est à nouveau moi. Je pensais que vous auriez parlé aussi d'équilibre, ce terme d'équilibre, mais je ne pense pas que vous en avez fait référence. Pourquoi ?
Alors donc à Poitiers, quand il y a un conférencier, on lui demande pourquoi il n'a pas parlé de ce dont il n'a pas parlé. Mais il y a tellement de trucs dont je n'ai pas parlé qu'on va y passer la nuit et sans doute davantage. Alors pourquoi je n'ai pas parlé d'équilibre ? Ma réponse, c'est que ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Quoi. C'est-à-dire, mais d'équilibre de quoi ?
Que certaines lois montrent que en fait, les lois montrent que l'univers cherche à atteindre un niveau d'équilibre, que ce soit chimique, que ce soit thermique.
Ah d'accord. Dans ce sens-là, alors, par exemple, dans l'explication de la flèche du temps que j'ai évoquée à l'instant, quand vous prenez un système thermodynamique, il évolue, l'entropie, comme on dit, ne peut que croître, et une fois qu'elle est maximale, le système atteint un état d'équilibre, c'est-à-dire que le système est stationnaire, il atteint un état tel que le cours du temps continue évidemment à se dérouler, le temps passe, mais en passant ne modifie pas les propriétés macroscopiques de ce système. Donc la flèche du temps disparaît. La flèche du temps disparaît, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de devenir. Ce qui veut dire que si on en croit la physique contemporaine, il faut distinguer le temps du devenir. Le temps et le changement sont deux choses complètement différentes. Quand on est à l'équilibre, le temps est toujours là qui passe, mais sans que ça la produise de changement. Donc on distingue les deux notions.
Merci.
Il y a une question au planétarium.
Merci. Allez-y.
Bonjour, vous avez parlé de la matière noire. Est-ce que vous pensez justement sur cette énergie de la matière noire que ça pourrait remplacer nos énergies fossiles à terme ou dans un avenir proche ?
Alors, avenir proche, non, parce qu'on n'a pas encore vu une seule particule de matière noire.
Sur les densités de Planck, ces choses-là,
on sait que ces particules, si elles existent, parce que le problème, ce n'est pas le problème de la matière noire, le problème, c'est le problème de la dynamique des galaxies. Voilà, la dynamique des galaxies, on la comprend soit en disant qu'il y a une matière différente de celle qu'on connaît, et on a des arguments pour dire que cette matière, si elle existe, est constituée de particules différentes de celles qu'on a détectées jusqu'à maintenant. C'est de la matière qui n'est pas baryonique, c'est autre chose que des électrons et des quarks, pour le dire simplement. Et on ne sait pas quoi, il y a des hypothèses, mais on n'en a vérifié aucune. Le LHC fonctionne depuis pas mal d'années maintenant, presque 10 ans. On a vu le boson de Higgs, mais on n'a rien vu d'autre. Autrement dit, toutes les particules prédites par le modèle standard ont été détectées, et toutes celles qu'on pourrait détecter à partir de maintenant sont des particules qui vont au-delà du modèle standard, dont certaines pourraient être des particules de matière noire. On n'en a pas vu. Le LHC est arrêté pour 2 ans là, afin d'augmenter sa puissance, et on verra. Mais il se peut que ces particules soient tellement massives qu'elles soient inaccessibles aux expériences. Et de là à dire que on pourrait, si on les découvrait, en tirer de l'énergie, il y a des pas qu'à mon avis on ne doit pas franchir. C'est-à-dire que
on les verra pas.
Si vous voulez, quand on parle de physique, il y a des sujets sur lesquels on a le droit de faire rêver, faire toutes sortes d'hypothèses à propos du Big Bang, des trous noirs, des pulsars et des ondes gravitationnelles. Et là, on a une physique qui est faite pour développer notre imaginaire. Mais il y a des sujets comme celui que vous évoquez, à savoir l'énergie, où, à mon avis, le discours des physiciens doit être un discours complètement conservateur qui empêche de rêver. Voilà. En arguant que depuis les années 30, on n'a pas découvert de nouvelles interactions physiques. Les dernières qu'on a découvertes, c'est les forces nucléaires. Depuis, on a vraiment diviser la taille des objets qu'on est capable de voir, on n'a pas vu de nouvelles forces. Donc on doit faire le pari qu'on ne découvrira pas dans les années qui viennent de nouvelles forces fondamentales. Donc on doit se débrouiller avec la gravitation, l'électromagnétisme et les forces nucléaires. On doit ensuite considérer que les lois de l'énergétique sont connues. Celles de la thermodynamique, la conservation de l'énergie, la croissance de l'entropie, et voilà. On a ces contraintes-là, et à partir de ces contraintes, on doit fabriquer un scénario de transition énergétique qui permette de donner l'énergie à 10 milliards de personnes sans que le climat se dérègle complètement. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas la solution. Voilà. Et donc, c'est un problème très sérieux. Et si on commence à dire on pourra tirer de l'énergie du vide quantique, ou bien on pourra extraire de l'énergie des trous noirs, ou bien de la matière noire, etc., ou bien de l'énergie noire, on se met mentalement dans une situation de procrastination en disant on continue comme avant, en espérant que les physiciens trouvent une solution. Or, la seule chose qu'on doive considérer comme crédible, c'est le fait qu'on va pouvoir augmenter les rendements du photovoltaïque, de certaines sources d'énergie, et en tenant compte de contraintes qui sont rédhibitoires. Par exemple, commencer par corriger notre vocabulaire. On a une façon de parler de l'énergie qui est trompeuse. J'ai assisté à beaucoup de débats à l'Office parlementaire sur la transition énergétique, et il y a très souvent des propos qui sont tenus qui violent les lois physiques. Or, comme le disait Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. La nature ne peut pas être dupée. Autrement dit, si vous envisagez un scénario qui ne respecte pas les lois physiques, ce scénario ne verra jamais le jour. Et on a une façon de parler d'énergie qui est trompeuse. Par exemple, j'entendais des députés qui parlaient de production d'énergie. Mais est-ce que quelqu'un a jamais produit de l'énergie ? Ben non, puisque l'énergie se conserve. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, la transporter ailleurs, ou bien en changer la forme. Vous avez de l'énergie thermique, vous en faites de l'énergie électrique ou autre chose, mais si vous n'avez pas d'énergie au départ, vous ne pouvez pas en créer. Donc on ne peut pas produire d'énergie là où il n'y a pas d'énergie. Première chose. Or, je connais beaucoup de gens qui pensent que tant qu'il y aura des ingénieurs dont le métier est de produire de l'énergie, il y aura de l'énergie. Ben non. S'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'énergie. Deuxième chose. On parle de consommation d'énergie. Mais qui a jamais consommé de l'énergie ? Ben personne, puisqu'elle se conserve. Vous voulez que j'explique ? Vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, dans votre réservoir. Vous roulez. Ça fait de l'énergie mécanique, cinétique. Vous allumez vos phares, ça fait de l'énergie lumineuse. Vous mettez la radio, énergie électrique. Et vous chauffez la route avec vos pneus, puis vous chauffez l'air. Une fois que le réservoir est vidé, vous avez épuisé ce litre de pétrole. Vous faites le bilan d'énergie qui est partout dans l'environnement sous forme de chaleur. Là, vous avez autant d'énergie que celle qu'il y avait dans le réservoir. Donc, aucune énergie n'a été détruite ou consommée dans l'opération. La seule chose que vous avez faite, c'est que vous avez créé de l'entropie. C'est-à-dire que vous avez pris une énergie très organisée qu'est le pétrole, une énergie très concentrée, très ordonnée, on pourrait dire. Et à la fin, vous avez produit de la chaleur qui est une énergie très désordonnée, que vous aurez plus de mal à transformer en travail mécanique. Autrement dit, personne ne consomme d'énergie, tout le monde crée de l'entropie. Quand vous roulez en voiture, vous créez de l'entropie, vous dégradez la qualité de l'énergie. Vous voyez, quand vous dites ça, avec ces mots-là, vous avez un rapport à la consommation, entre guillemets, de l'énergie qui est un peu différent. Et enfin, troisième point, est-ce qu'il y a des énergies renouvelables ? Ben non. Ça n'existe pas. Ne faites pas ces têtes. Hein, je suis désolé. Pour la même raison. Une fois que vous avez dégradé l'entropie d'une énergie, c'est irréversible, c'est pas renouvelable. Or, mes voisins, j'ai fait une enquête, je fais beaucoup d'enquêtes en ce moment. Mes voisins dans mon immeuble, ils pensent qu'une énergie renouvelable est infinie. Mais non, ce qui est renouvelable, c'est le processus physique qui produit votre énergie primaire. Donc le rayonnement du soleil ou bien le vent. Ça, c'est renouvelable. Le vent est renouvelable, mais pas l'énergie que vous extrayez. Une fois que vous avez dégradé l'entropie d'un kilowattheure d'énergie solaire ou éolienne, vous l'avez dégradé, c'est fini. C'est pas renouvelable. D'accord ? Vous n'avez pas renouvelé l'énergie. Vous avez pris de l'énergie, puis vous l'avez remplacée par une autre énergie de même nature qui est arrivée. C'est le flux qui fait que c'est renouvelable, mais pas l'énergie elle-même. Donc, vous voyez, quand on a ce rapport-là aux choses, eh ben, on comprend que l'énergie, la question de l'énergie, c'est sérieux. Je vous rappelle que plus de 80% de notre énergie est fossile. Fossile, ça veut dire quand on la brûle, ça crée des gaz à effet de serre. D'accord ? On va fêter demain, je crois, ou après-demain, il y a la pétition signée par 2 millions de Français pour demander que l'État s'occupe plus de problèmes climatiques. C'est étonnant que cette pétition soit en France. 80% de notre électricité est décarbonée. Hein. En Allemagne, 100% de l'électricité est carbonée. Quand vous roulez à l'électrique en France, en gros, vous roulez au nucléaire. Hein. Donc l'écologie de la voiture électrique est liée à la façon dont vous produisez l'électricité. En Allemagne, vous roulez à l'électrique, vous roulez au gaz, ou bien au charbon, ou bien au pétrole. Oui. Mais c'est quoi ?
Pour que tout le monde en profite, puis il y avait des personnes avant vous, excusez-moi.
Du coup, ma question, je la répète, c'était est-ce que vous croyez à l'économie circulaire ? Du coup, je vais l'expliquer. Mmh. Et est-ce que c'est crédible physiquement ? Moi, ma référence que j'ai, c'est Gunther Pauli, qui parle d'économie bleue. Je dois expliciter plus.
Oui.
L'idée, c'est le biomimétisme pour créer un cycle avec les déchets. Enfin, c'est déjà une idée qui est pas mal répandue, mais axer et recréer l'économie avec ça.
Bon, je ne sais pas comment vous répondre. Parce que dans le mot circulaire, il y a l'idée qu'on revient à l'état initial après retraitement des déchets, récupération, recyclage, etc. Moi, je pense qu'il y a toujours la déperdition, il y a de l'entropie dans l'affaire, et qu'on peut récupérer des choses, recycler beaucoup de choses, mais jamais au point de considérer que les ressources, du coup, seraient indéfiniment disponibles. Voilà. Je sais que les Chinois, par exemple, créent des grandes zones de stockage des batteries électriques des voitures. Parce qu'aujourd'hui, récupérer les métaux rares qui sont dans les batteries, c'est pas rentable économiquement. Mais leur pari, c'est qu'aujourd'hui, bientôt, le coût de l'énergie sera tel que ça deviendra rentable de récupérer les métaux rares qui sont dans les batteries. Et je pense que dans ces questions-là, il faut regarder l'ensemble du cycle. L'ensemble du cycle, c'est-à-dire que je ne suis pas compétente, mais j'ai entendu et lu des papiers sur la question. La voiture électrique, c'est très bien parce que ça ne pollue pas, mais encore une fois, il faut tenir compte de la chaîne de production d'électricité. Et puis les batteries, c'est des métaux spéciaux qui ne sont pas en quantité infinie. Et ça n'est vraiment rentable que si on roule beaucoup. Et donc, il y a toute une prise en considération qu'il faut faire des matériaux qu'on utilise pour voir cela. Et même si je conçois qu'on puisse beaucoup mieux gérer tout cela, il y a eu déjà tellement de déperditions, de gâchis, de pollution avec des matériaux qu'on n'a pas récupérés, je pense au plastique, que le seul fait d'invoquer l'économie circulaire ne suffit pas, à mon avis, à rendre compte de la gravité du problème.
Alors moi, je rebondis, je suis désolé, hein, mais je vais essayer d'être rapide. Parce que je tiens à faire cette intervention parce que c'est l'économie circulaire, ma source d'optimisme par rapport au climat et aux enjeux environnementaux, en fait. Et ce qui est intéressant dans l'économie circulaire, c'est l'attitude face aux déchets. Et on voit avec une approche comme ça, dans des déchets comme le plastique, une opportunité au lieu juste un déchet.
Moi, je ne suis pas assez compétent. Est-ce que tous les déchets sont vraiment recyclables ? Est-ce qu'il n'y a pas des pertes en ligne qui sont considérables ? Est-ce que le passif du passé, si j'ose dire, n'est pas déjà suffisamment grave pour que la circularité dont vous parlez ne concerne qu'une petite partie des ressources ? Moi, je ne sais pas. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je dis simplement que quand on écoute les scientifiques parler du futur, il y a eu deux colloques récemment, l'un à Cannes, l'autre à Saint-Raphaël, à une semaine d'intervalle, sur la même question qui était celle du futur, disons du 21e siècle. Le premier colloque avait invité des ingénieurs, des médecins, disons des technologues. Et eux étaient très enthousiastes à l'idée d'un homme augmenté, un homme qui serait débarrassé de tous les soucis liés à la matérialité du corps grâce à des implants dans le corps ou bien un trafic du génome. Bref, il voyait le futur de l'humanité comme étant constitué de cyborgs. Voilà. Et puis le colloque d'après, c'était des scientifiques qui travaillent sur l'environnement, le climat, l'énergie, la biodiversité. Et eux avaient des discours complètement catastrophistes, du genre l'environnement va être dévasté, la biodiversité c'est fini. Et si on synthétise les deux discours, ceux des technologues et ceux des scientifiques, on aboutit à cet amalgame bizarre qui est que l'avenir de l'humanité, ce serait des cyborgs dans un environnement dévasté. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ça? Quand vous écoutez les hydrologues parler du problème de l'eau à long terme, c'est quand même inquiétant de voir comment le changement climatique va faire que des zones arides vont être complètement privées de pluie. On ne peut pas demander aux gens de continuer à vivre dans des endroits où on ne peut pas se nourrir, parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc ça veut dire des migrations. Le fait qu'il y ait des migrations n'est pas mauvais en soi. Simplement, il faut s'y préparer, ça peut engendrer des conflits. Donc c'est quand même une situation très spéciale. Et la question est de savoir comment configurer le futur d'une façon qui soit à la fois conforme à ce que nous désirons et qui tienne compte de ce que nous savons. Voilà, c'est ça un peu la difficulté de l'exercice. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça va secouer, quoi. Ça va secouer. Alors, on ne peut pas imaginer une humanité à 7 ou 8 milliards de personnes qui ait l'énergie à disposition égale à celle d'un Français moyen. Ça, c'est pas possible. Donc. Et si on brûle tout le carbone, si on envoie dans l'atmosphère tout le carbone qui est dans la croûte terrestre, sous forme de charbon, de gaz ou de pétrole, bah, l'atmosphère ne le supportera pas. Donc, c'est ambiance quand même. On peut se demander pourquoi on arrive, nous, en tant qu'être humain, juste à cette période-là. Moi, j'ai 60 ans. Quand j'avais 20 ans, on ne parlait pas de ça. Pas du tout. Et on arrive à un moment où on passe d'une vision à l'époque de l'an 2000 qui était très euphorique à quelques années plus tard, une vision du futur qui est non pas catastrophiste, mais qui dit en gros, on est dans un mode de vie qui n'est pas extensible spatialement et qui n'est pas extensible temporellement. Et donc, ça crée un sentiment bizarre. Le fait que qu'on soit là au moment où le pétrole... Enfin, vous voyez, le pétrole, c'est ça qui a tout changé, hein, la découverte du pétrole. Voilà, ça a complètement changé le mode de vie, la consommation, la production. Et on se trouve, alors que l'humanité a plusieurs millions d'années, nous, on se trouve dans cette période charnière où on prend conscience que le mode de développement qui nous a portés là où nous sommes ne peut pas être maintenu pour tout le monde à l'identique. Or, l'idée de progrès par les Lumières, c'est l'idée d'un progrès qui concerne le genre humain. Hein. Pas une partie du genre humain, le genre humain. Et je pense que la difficulté, ce qui fait qu'on est mal à l'aise avec le progrès, qu'on a même abandonné l'usage du mot, c'est qu'on comprend bien que la technique, selon qu'on en dispose ou pas, augmente les inégalités. Même si le niveau moyen monte, les inégalités augmentent. Et on voit bien que, à force d'augmenter, elles créent des différences dans les conditions de vie des humains qui en viennent à modifier la condition humaine pour certains. Et la question, c'est pendant combien de temps on va avoir le sentiment partagé de faire partie empathiquement de la même humanité. Pour moi, c'est ça le grand défi, si vous voulez. C'est que l'humanité ne se sectorise pas, se coupe pas, et que, quelles que soient nos conditions de vie, on garde le sentiment d'appartenir à la même espèce. Quelles que soient nos conditions de vie, j'insiste là-dessus. Et ça, c'est un enjeu considérable. Et si on ne l'affronte pas, alors l'idée de progrès sera complètement abandonnée, au motif qu'elle se sera tellement sectorisée qu'elle aura perdu tout sens. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, peut-être, c'est que le mot progrès a disparu des discours publics. Hein. Je l'ai mesuré avec un collègue de l'Académie qui s'appelle Gérald Brunner. Avec un logiciel, on a mesuré ça. Et on a mesuré quantitativement ce que chacun perçoit avec ses oreilles. C'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant des siècles avec une majuscule, a commencé à décliner dans les années 80, remplacé petit à petit par le mot innovation, qui l'a complètement détrôné. Alors pour dire, c'est pas grave, c'est synonyme, on a remplacé un mot par un autre, mais quand on vous regarde les rhétoriques dans lesquelles on insère le mot progrès et les comparer à celles dans lesquelles on insère le mot innovation, vous verrez que c'est pas du tout pareil. Autrement dit, nos discours sur l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Je pourrais développer ça longuement, mais en gros, l'idée de progrès s'appuie sur un temps linéaire constructeur qui est complice de notre liberté, de nos projets, de notre volonté. Et donc, croire au progrès, c'est configurer le futur d'une façon crédible et attractive et travailler à le faire advenir. Travailler parce qu'il n'est pas automatique. Alors que nos discours sur l'innovation, lisez le document européen par exemple, c'est de dire il y a des défis présents, raréfaction des ressources, changement climatique, vieillissement de la population, etc. Et nous, Européens, avons compris que nous ne pourrons les relever que par l'innovation. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui sert de justification à nos actions. Et cette rhétorique s'appuie sur l'idée d'un temps qui est non pas constructeur, mais corrupteur. Le temps abîme les choses, dégrade les situations, et seule l'innovation va nous permettre de relever les défis et de maintenir le monde. C'est pour ça que les discours sur l'innovation sont conservateurs. Il s'agit d'empêcher que le monde se défasse. Alors que les discours sur du progrès étaient des discours pas du tout conservateurs, au contraire. C'est pour ça que pour les jeunes, j'imagine que c'est assez difficile de vivre dans un monde dans lequel on ne configure jamais le futur. Moi, j'ai une génération, on me parlait de l'an 2000 tous les jours. Il était configuré. 2050, personne n'en parle. 2100, personne n'en parle. De sorte que le vide, le futur est laissé en jachère intellectuelle. Et quand il est laissé en jachère, il se laisse coloniser par les peurs, les angoisses, la procrastination, etc.
On va peut-être prendre rapidement les deux dernières questions, parce que les gens attendent depuis un certain temps. Donc, une question ici.
Bonjour. J'ai peur que vous ayez déjà évoqué tous ces sujets, mais c'était pour reparler un peu de l'entropie, en termes plus théoriques, disons, même si vous venez d'en parler quelque part juste avant. Je ne sais pas si on peut dire que le second principe de la thermodynamique est une loi. Je ne suis pas sûr de savoir mettre ça dans les bonnes cases. Mais en tout cas, si c'est une loi, enfin, c'est ce principe, il me paraît fondamental, comme s'il était universel, c'est-à-dire il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit vrai. Je ne sais pas comment le formule autrement, peut-être que vous avez une opinion.
Non, alors, le principe de la thermo, le deuxième principe, il se déduit de l'équation de Boltzmann, c'est-à-dire qu'on peut le démontrer dans le cadre de la mécanique statistique. Donc si vous croyez à la mécanique statistique, alors, parfois il y a des subtilités. Vous connaissez tous Cédric Villani, prochain maire de Paris. Enfin, j'en sais rien. Mais... Bon, je ne sais pas, il est candidat. Non, mais lui, il a eu la médaille Fields en mathématiques pour avoir démontré qu'il y a des situations dans lesquelles on trouve des solutions de l'équation de Boltzmann qui sont négentropiques. D'accord ? Donc on peut comprendre comment, malgré le deuxième principe de la thermo, on peut créer de l'ordre localement dans un univers qui voit son désordre global augmenter. D'accord ? Donc on peut comprendre la formation de structures ordonnées dans un univers qui est soumis à une augmentation de l'entropie. Donc, en gros, cette loi est une sorte de théorème de la physique statistique. D'accord ? Donc, je dirais, pour répondre à votre question, qu'il est aussi vrai que la physique statistique.
Oui, juste une question par rapport à Darwin et le cerveau humain que vous aviez évoqué tout à fait au début de l'exposé. Darwin était entré en conflit avec un certain Wallace, qui lui disait que le Dieu était nécessaire. Parce que si la fonction crée l'organe, qui a créé le cerveau ? Donc c'est forcément Dieu. Et Darwin a mis pas mal de temps à comprendre, enfin, à poser une loi sur l'évolutionnisme en disant les structures biologiques restent les mêmes, il y a une constante. Mais à partir d'un certain niveau de complexité, le cerveau se met à pouvoir faire d'autres, à remplir d'autres fonctions, dont la pensée théorique, abstraite, etc. Et je me suis demandé, parce que vous aviez fait un parallèle avec l'univers, avec les lois de l'univers, est-ce qu'on peut imaginer, comme vous l'avez suggéré, me semble-t-il, si j'ai bien compris votre exposé tout à fait à la fin de votre discours, la même chose pour les lois de l'univers, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment de complexité de l'organisation de l'univers, finalement l'univers crée ses propres lois, enfin, ou tout au moins ajuste ses propres réglages des lois. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut, alors là, c'est, je ne suis pas du tout physicien, imaginer trouver d'autres lois qui corroboreraient finalement cette évolution des ajustements physiques, par exemple dans des singularités comme des trous noirs ou au-delà du mur de Planck. Et la troisième question, vite fait, c'est est-ce que ce serait une manière pour nous de réinscrire la physique, je parle plutôt en philosophe, entre guillemets, du dimanche peut-être, de réinscrire un peu tout ça dans un contexte plus matérialiste et moins, entre guillemets, divin.
Heureusement que c'est la dernière question. Hein. Bon, je ne sais plus par quel bout prendre, parce qu'il y a trois questions dans ce que vous dites là. Alors, la remarque sur le fait que l'univers s'adapte dans une logique darwinienne à l'évolution de son contenu, c'est une hypothèse que j'ai formulée en citant Lismoline. Lismoline, c'est ce physicien qui développe cette idée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait l'argumenter davantage dans un livre, apparaître bientôt, je n'ai pas encore lu, mais je pense qu'il y a une partie de la réponse à votre question. Maintenant, à propos du cerveau, la question c'est jusqu'à quel point on peut dire qu'il existe un en dehors de l'esprit. Autrement dit, quand vous êtes physicien, votre activité de chercheur n'a de sens que si vous supposez qu'il y a des choses dans le monde qui ne dépendent pas de la conscience que vous en avez. Autrement dit, il y a une sorte d'extériorité de la conscience. Sinon, lorsque vous faites une découverte en physique, ce serait une sorte d'introspection. C'est-à-dire vous découvriez ce que le cerveau lui-même est capable de produire sans que ça corresponde à un élément de réalité qui transcendrait la conscience. Simplement, cet énoncé-là ne peut pas se démontrer. C'est-à-dire je ne peux pas démontrer par la physique qu'il existe un en dehors de l'esprit. Mais j'en fais l'hypothèse pour que mon métier ait un sens. Et j'ai aussi quelques arguments. Par exemple, le fait que la physique, ça marche quand même très bien, que la physique a permis de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Les ondes gravitationnelles, le boson de Higgs. Le fait que les ondes gravitationnelles qu'on a détectées en 2015, si vous regardez le spectre temporel de celles qui sont passées au travers de la Terre, c'est exactement le spectre qui avait été calculé à l'avance. Le boson de Higgs qu'on a découvert, il est exactement comme il avait été prédit. Et donc je pense que tout cela, cette sorte d'efficacité opératoire, est la preuve que la physique, les théories physiques, n'ont pas décrit le réel, mais ont à voir ou touche quelque chose qui a à voir avec le réel. Sinon, on ne comprendrait pas qu'elle marche aussi bien. Et à chaque fois qu'elle rencontre une donnée expérimentale qui les confirme, il faudrait invoquer non pas l'hypothèse que je viens de faire, mais le fait qu'il y a eu un miracle à chaque fois. À chaque fois que ça marche, c'est un miracle. Ça fait trop de miracles. Et donc je pense, moi, que la physique, même si elle est un produit de l'esprit humain, après tout, permet de toucher quelque chose qui n'est pas directement le produit de l'esprit humain. C'est une opinion, ce n'est pas une démonstration.
Merci. Merci beaucoup, Étienne Klein. Je crois qu'on pourrait continuer encore très longtemps. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que vous êtes encore là. Je voudrais juste dire que je trouve assez significatif que nous ayons passé pas mal de temps pendant les questions à agiter des sujets qui n'avait a priori pas grand-chose à voir avec la question posée initialement, mais qui concernait l'environnement. C'est très significatif. Ça rejoint un certain nombre de choses que nous avons déjà dites dans notre festival hier. Je pense que vous y étiez, les uns et les autres. Je vous rappelle qu'il y aura encore un certain nombre d'événements qui toucheront également ces questions-là autour de l'arbre, autour des plantes, autour des sciences participatives, ici même jeudi prochain. Vous verrez tout ça dans le petit dépliant. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Il y en a un petit paquet ici, il y en a de l'autre côté, j'en ai encore dans un sac. Que tout le monde sorte d'ici avec ceci dans les mains. Merci encore à tous et merci à Étienne Jacques.